RFI Mondial Sport. Christophe Diremzian, Philippe Zigraf.
Bonsoir à tous. Mondial Sport, grand format et riche menu durant les trois quarts d'heure à venir, avec d'abord bien sûr la chaude soirée au Stade Vélodrome pour le classique Marseille-Paris-Saint-Germain, la grande affiche de la 27e journée de Ligue 1 qu'on va suivre avec Stéphane Burgat. On va faire un nouveau point dans un instant. Cap ensuite sur la Liga espagnole et un autre choc au sommet entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone, résumé par Pierre Chaperon. En Afrique, c'est parti pour 15 jours de CAN des moins de 20 ans. La Zambie a bien lancé sa compétition chez elle face à la Guinée. Coup de projecteur ce soir sur les Lionceaux sénégalais, finaliste 2015. Ce n'est pas en Irlande que le 15 de France aura rassuré ses supporters. Sa défaite 19-9 lors de la troisième journée du tournoi destination de rugby laisse deviner un gros travail encore à effectuer sur le chemin du renouveau. Retour sur la rencontre avec Cédric de Oliveira. Sprinter, rouleur, puncher, la crème du cycliste africain rassemblé au Gabon pour une semaine de Tropical Missabongo. Grand départ de cette 12e édition. Demain, on retrouvera notre envoyé spécial Frédéric Gassman dans la seconde partie. Budapest, la prise dans la course à l'attribution des Jeux Olympiques 2024, la Fronde Populaire a eu raison de la volonté gouvernementale. Les Jeux, c'est cher et ça laisse parfois des équipements à l'abandon. Ce n'est pas Rio qui pourra dire le contraire. 6 mois après la fin des Jeux 2016, certains sites ne ressemblent déjà plus à grand chose. Triste constat des lieux avec François Cardona.
RFI.
Allez, sans plus attendre, l'événement foot de la soirée, le classique Marseille-Paris-Saint-Germain, choc de clôture de la 27e journée de Ligue 1. Vous avez pu suivre quelques-uns des temps forts dans les journaux et les flashs de RFI depuis plus d'une heure, grâce à notre correspondant Stéphane Burgat, qu'on retrouve tout de suite au Stade Vélodrome. Seconde période, Stéphane, mais dites-moi, c'est la catastrophe là pour l'OM, 3-0 pour le PSG.
Et voilà, je vais vous raconter un petit scénario. Catastrophe. La fête était vraiment pourtant bien partie avec ce record d'affluence qui était battu, 65 252 spectateurs. On s'attendait à une grande fête. Attention, peut-être le 4-0 qui était manqué de peu. Et cette frappe partie de la gauche de Verratti. Et belle parade de Pelé qui s'est couché. Frappe de Kurzawa, excusez-moi. Et la défense marseillaise qui a pris l'eau au bout de 6 minutes de jeu. À peine c'est Marquinhos qui a allumé la première mèche. Un coup franc très lointain tiré par Verratti. Excentré, Thiago Silva remet de la tête pour Marquinhos, qui s'arrache facilement à tout marquage. Et puis 10 minutes à peine plus tard, c'est Cavani qui est parti à la limite du hors-jeu, servi là encore par Verratti, le diable pour les Marseillais ce soir. Cavani qui est parti dans le dos de la défense très facilement pour tromper Johan Pelé, son 26e but cette saison. Il aurait pu aggraver le score sur une bourde de Patrice Evra et Lucas qui était parti au duel face à Pelé, duel perdu. Pelé qui fait une parade, Cavani qui suit bien la balle et qui tente de retourner acrobatique et qu'il manque, la balle passe au-dessus. Il y a eu un but refusé aussi en première période pour Thiago Silva pour une position de hors-jeu, de quoi bien gâcher la fête. Et bien d'autant que les Marseillais n'ont pas vraiment réagi, ils se sont montrés inoffensifs vraiment devant, aucune frappe cadrée pour le moment. Il y a eu juste aller ce tir qui a fait monter un petit frisson dans les tribunes de Dimitri Payet en première période, mais la balle a fui le cadre, scénario cauchemardesque, surtout qu'on sent que Paris a vraiment la place pour en mettre plus. On a un premier coaching, Patrice Evra est sorti à la mi-temps, on a vu vraiment Tonton Pat à bout de souffle ce soir. Il faut changer quelque chose côté marseillais, mais on ne trouve pas pour le moment la solution et ça fait mal. 3-0 pour le Paris Saint-Germain alors qu'on approche tout doucement de l'heure de jeu.
Merci beaucoup Stéphane, on repassera bien sûr par le Vélodrome dès qu'il y a un but et aussi juste avant la pause de ce Mondial Sport. Profitons de l'instant pour redonner les résultats des deux autres matchs décalés de ce dimanche. Tout bénéfice pour Lyon, très net vainqueur de Metz 5-0 grâce notamment à un doublé du néerlandais Memphis Depay. Dans le même temps, l'OL, solide quatrième, a vu Saint-Etienne chuter à Geoffroy Guichard devant Caen 1-0. 7 points séparent désormais Lyonnais et Stéphanois. Bordeaux s'est même intercalé entre eux à la 5e place. Direction l'Espagne maintenant pour l'autre choc de ce week-end en Liga à l'occasion de la 24e journée, Atlético de Madrid FC Barcelone. De retour du stade Vicente Calderón, Pierre Chaperon. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Christophe.
Un Barça sous pression du résultat au coup d'envoi de l'Atlético était à bon test. Il est réussi pour les Catalans, au moins sur le papier, victoire 2-1. Match difficile quand même pour le Barça, mais l'essentiel est là et les Catalans engrangent 3 précieux points.
Oui, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Le Barça gagne dans la douleur, victoire de 2-1, vous le disiez. contre un adversaire direct pour le titre national. Une rencontre qui a eu du mal à se dessiner, hein, après une première mi-temps globalement dominée par l'Atlético, mais une domination stérile. Et bien, c'est à l'heure de jeu que le milieu barcelonais Rafinha a ouvert le score d'un tir croisé dans les 6 mètres suite à plusieurs contres favorables pour les Catalans. 7 minutes après, l'Atlético égalise sur une tête de Godin suite à un coup franc de Coquet après une faute de Busquets.
Et comme souvent, c'est Lionel Messi qui a débloqué la situation.
Eh oui, à 4 minutes de la fin du temps réglementaire, l'Argentin en deux temps est allé marquer sur le but de la victoire, sur une superbe passe en retrait de Luis Suarez dans la surface de réparation, bien lancée par un certain Samuel Umtiti, le natif de Yaoundé. 2-1, score final, et c'est le 22e but dans sa carrière pour Messi contre l'Atlético, un record, 4e succès de suite en championnat pour le Barça.
Alors justement, côté Barça, on en pense quoi de ce succès à Madrid ?
La satisfaction, ça c'est le maître mot. On a vu des joueurs tous concentrés, concernés pendant la rencontre, solidaires, beaucoup de hargne. Ils se sont battus sur tous les ballons. Une attitude très combative, peu vue ces derniers temps. Alors oui, Christophe, tout n'a pas été parfait, mais les Blaugrana avaient tous le sourire après la rencontre. Logique. Écoutez l'avis du défenseur français Lucas Digne. L'essentiel, c'est la victoire, surtout ici, dans le stade Vicente Calderón.
C'était un match important, on était tous au courant et il fallait absolument qu'on gagne et c'est chose faite maintenant, donc va falloir continuer là-dessus. On savait que c'était un match compliqué contre une grande équipe et fallait qu'on gagne et comme je le dis, ouais, c'est ce qu'on a fait, le plus important il est fait, maintenant va falloir continuer à gagner. Je pense pas beaucoup d'équipes viennent gagner à Calderón, après c'est vrai qu'on a des choses à améliorer, ça on en est conscient, mais en tout cas je pense que venir gagner 2-1 ici, c'est quand même quelque chose.
Lucas Digne qui a joué un quart d'heure en fin de rencontre, remplaçant un autre Français. Jérémy Mathieu blessé, rien de grave nous a-t-il dit après la rencontre, il souffre quand même d'une entorse.
Alors l'Atlético de Madrid vaincu, c'est une défaite qui sonne quand même comme un adieu au titre.
Ouais, et c'est ce que pensait une bonne partie des supporters de l'Atleti ce soir en quittant le stade, mine triste. Malgré un beau soleil d'hiver, malgré cet ultime Atlético Barcelone au Calderón en championnat, c'est terminé, on n'y croit plus. L'entraîneur de l'Atlético, Diego Simeone, a été plutôt énigmatique après la rencontre, puisqu'il a déclaré chez les diffuseurs ici en Espagne, d'ici 5 journées, nous pourrons annoncer quel est notre objectif, aveu d'échec ou manière de remobiliser son groupe. Rendez-vous donc dans un mois. Ce soir, les Colchoneros sont à 9 points de leur adversaire du soir. Un gouffre dans cette Liga très compétitive et donc difficilement remontable.
L'Atlético 4e donc ce soir et qui va devoir regarder derrière.
Oui, puisque le club de Madrid va devoir défendre cette place qualificative pour le barrage de la Ligue des Champions, la 4e place. Gare à la Real Sociedad, le club de San Sebastián, vainqueur vendredi sur la pelouse de Las Palmas. Les Basques sont 5e au classement, à un tout petit point des Rouges et Blancs. Les deux équipes s'affronteront début avril d'ailleurs. L'absence de Ligue des Champions pour l'Atleti, eh bien, ça pourrait marquer un coup d'arrêt dans l'histoire des Colchoneros, voire la fin d'une époque, Christophe.
Voilà, et pendant ce temps-là, le Real est en train de jouer sur la pelouse de Villarreal. Et figurez-vous que c'est Villarreal qui mène 2-1, alors qu'on approche du dernier quart d'heure de jeu. Et puis hier, dans le derby de Séville, le FC Séville est allé l'emporter sur la pelouse du Betis 2-1. Un petit tour en Angleterre, où Manchester United a remporté la Coupe de la Ligue en battant Southampton 3-2. Les Red Devils doivent leur trophée à un certain Zlatan Ibrahimovic, auteur du premier et du troisième but décisif de la tête à la 87e minute de jeu. On retourne au Stade Vélodrome, Stéphane Burgat, le calvaire continue pour l'OM. 4-0 pour le Paris Saint-Germain.
Ça commence à faire lourd et Draxler rentré en cours de jeu en seconde période qui prend de vitesse, une action partie de la droite, on voit ce centre Rater et il a pris les devants dans la course sur la défense marseillaise, il est bien servi Rater par Thomas Meunier, il ouvre le pied droit et il trompe Johan Pelé, 4 buts et à chaque fois la défense marseillaise qui est prise de vitesse, problème d'agressivité, problème de vitesse, le score est lourd mais on la voit hein, cette classe d'écart entre ces deux équipes et ses 17 points au classement. Marseille vit vraiment une terrible, terrible soirée face à son public.
Bon, les choses malheureusement semblent réglées du côté de Marseille. Merci Stéphane, on vous retrouvera bien sûr tout à l'heure en fonction de l'évolution du score. La séquence football en Afrique, à présent avec vous, Philippe Zigrave, bonsoir.
Bonsoir.
On en a déjà pas mal parlé hier, cette fois c'est parti, la CAN des moins de 20 ans a démarré cet après-midi en Zambie, avec deux résultats déjà tombés.
Oui, dans le groupe A, Lusaka, la victoire du pays organisateur, la Zambie face à la Guinée 1-0, le but d'un garçon dont on parlait d'ailleurs, Christophe, hier soir, la petite pépite de l'équipe zambienne, Paston Daka, il joue en Autriche, et lui qui a marqué l'unique but donc de ce match. Et puis dans l'autre rencontre, 0-0 entre le Mali, qui est le favori de la compétition, et l'Égypte.
Dans l'émission d'hier soir, on a évoqué l'équipe du Cameroun à travers son entraîneur. Éclairage ce soir, Philippe, sur l'un des favoris, le Sénégal.
Oui, un Sénégal finaliste de la CAN il y a 2 ans, demi-finaliste de la Coupe du Monde la même année, hein, battu par le Brésil. Alors, ceux de 2015, évidemment, ne sont plus là, mais l'ambition de décrocher un premier titre africain est toujours bien présente, surtout que cette équipe s'est très bien préparée, notamment à travers le dernier tournoi de l'UEMOA qu'elle a remporté. Écoutez, l'entraîneur du Sénégal, Joseph Kotto.
On a préféré amener des joueurs qui ont fait tous les tournois, dont le dernier tournoi de l'UEMOA qu'on vient de remporter. Après 2015, pratiquement il ne restait qu'un seul joueur dans ma sélection. Ce qui nous a aidé, c'est le championnat professionnel où beaucoup de joueurs juniors jouent dans les équipes seniors et puis les centres de formation qui travaillent aussi beaucoup.
Les championnats petite catégorie au Sénégal, ça ne joue pas beaucoup.
Absolument. Donc si on se basait sur le championnat de petite catégorie junior, on n'allait jamais se qualifier parce que le championnat est inexistant. Bon, le championnat professionnel nous a beaucoup aidé et nous a permis de prendre des raccourcis.
La Ligue 1.
Oui, la Ligue 1. Donc c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, vraiment, on a une équipe très compétitive. La fédération nous a fait confiance en nous laissant jouer le tournoi, par exemple, de l'UEMOA, un tournoi carrément senior, où on a pris l'engagement d'envoyer des juniors en préparation.
L'entraîneur d'équipe du Sénégal des moins de 20 ans était un peu pris de court, Joseph Kotto. Il répondait à Babacar Fall. Philippe, le programme de la première journée du groupe B, demain, Ndola.
Oui, Sénégal-Soudan à 13h temps universel, suivi à 16h TU de Cameroun-Afrique du Sud. Finale le 12 mars prochain à Lusaka. Les quatre demi-finalistes se qualifieront pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Coupe du Monde qui se disputera en mai et en juin prochain en Corée du Sud.
Un nouveau retraité international dans l'actualité africaine du foot. Serge Gakpé ne jouera plus pour l'équipe nationale du Togo. L'attaquant du Kivu Véron l'a annoncé cette semaine sur les réseaux sociaux.
Oui, sur son compte Twitter, hein, très exactement. Il aura bientôt 30 ans. Gakpé, il a été formé à Monaco, il est passé par Nantes, par le Standard de Liège, et donc il renonce aux éperviers, peut-être échaudé par les problèmes récurrents d'organisation ces dernières années, et puis aussi peut-être par l'élimination au premier tour de la dernière CAN, et Gakpé pourrait être suivi par d'autres internationaux. Explication à Lomé de Comla et Clou.
C'est pratiquement toute la vieille garde des éperviers qui a le blues et qui s'apprête à jeter l'éponge. Sont annoncés sur le départ Alexis Romao, Serge Akapo, Flodaïté, Gassa Kossi et probablement Emmanuel Adebayor. Parmi les raisons invoquées, des choix tactiques du sélectionneur Claude Leroy qui ont empêché certains joueurs de véritablement s'exprimer à la CAN 2017. Mais pour Jean-Louis Koutchonou, entraîneur et consultant, ces retraites anticipées ne sont pas une surprise.
Il fallait s'y attendre. Si c'est des gens qui veulent réellement servir d'exemple, avoir dans la tête qu'il faut essayer maintenant de défendre autrement les couleurs du Togo, je pense qu'ils ne vont plus chercher à être sur la liste des éperviers qu'on va convoquer pour des échéances qui nous attendent.
Reste à bâtir une nouvelle équipe des éperviers. Selon Jean-Louis Koudjounou, le noyau existe déjà.
Certains qui étaient au Gabon, les gens comme Bebou, Atakora, moi je dis Floyd, il ne va pas partir maintenant, Atou Franco, les Koulou Maglibé, c'est des joueurs qui vont rester et ils vont constituer le nouveau noyau de cette équipe.
Des échéances, notamment 2 matchs amicaux, attendent les éperviers dès ce mois de mars. Comme l'a éclos Lomé RFI.
Et la fédération togolaise donc en discussion pour les matchs amicaux dont parlait comme l'a éclos, mais pour l'instant pas de nom d'adversaire.
Alors au Togo, les uns s'en vont et chez le voisin béninois, en revanche, un joueur arrive.
Oui, né en France d'un père béninois, Cédric Untonji va porter les couleurs des écureuils. Le joueur du Gazélec d'Ajaccio, club de Ligue 2 française, vient de l'annoncer. Décidément, c'est la grande mode, hein, les réseaux sociaux, puisqu'il a écrit sur Facebook « Ma décision est prise, ce sera une grande fierté de jouer pour le pays d'origine de mon père ». titulaire. Untonji a été formé à Rennes. Il a 23 ans, il mesure 1m94 et il pourrait débuter sous le maillot béninois contre la Mauritanie en match amical le 24 mars prochain. Une petite précision, il a joué entre 2009 et 2013 dans toutes les équipes de France de jeunes.
Alors, en revanche, toujours pas de perspective, à brève échéance en tout cas, de revoir Gervinho sur le terrain de foot puisque l'attaquant ivoirien est toujours en rééducation après sa grave blessure d'octobre dernier.
Oui, et notre correspondant en Côte d'Ivoire, Emmanuel Kofi, l'a rencontré à Abidjan il y a quelques jours. Gervinho, on le rappelle, s'est rompu les ligaments croisés du genou gauche lors d'un entraînement avec son club chinois de Hebei. C'était le 25 octobre dernier. Il avait ensuite été opéré à Paris. Dans ce genre de blessure, on déclarait en général est de 6 à 7 mois. Alors si l'on compte bien, cela fait 4 mois que Kwasi Gervais s'est blessé, donc son retour n'est pas pour tout de suite. Et il s'est confié, vous disais-je, à Emmanuel Kofi pour parler de son actualité, mais aussi des éléphants de Côte d'Ivoire qu'il aimerait retrouver au plus vite.
J'essaie d'aller étape par étape, et donc à chaque étape, il y a un bon résultat. Donc c'est vrai que je suis encore, il reste pas mal de choses, mais ça va mieux.
Alors quand vous dites que ça va mieux, il vous reste combien de temps pour devenir opérationnel?
Je ne pourrais pas donner le nombre de temps qu'il reste. J'essaie de ne pas me fixer sur ce genre d'idées. Le plus important, c'est que je franchis étape par étape à ma rééducation. Je suis toujours en phase de rééducation. Un mois, deux mois, trois mois, je ne sais pas, mais ce n'est pas me précipiter et puis revenir dans de bonnes conditions.
Et dans la tête, vous êtes fort en ce moment, c'est l'essentiel?
Très fort, il faut toujours rester positif. Même si ça n'a pas été facile, je pense que c'est des choses qui arrivent. Après, quand on a des personnes autour de nous qui vous donnent le moral, qui sont là, donc je pense que ça vous donne encore plus de force. Mais ça n'a pas été facile, mais on est toujours dans la difficulté. Après, je pense que dans la vie, on raconte toujours certaines choses, donc après, il faut toujours rester positif.
Alors, vous dites que ça n'a pas été facile. Effectivement, la veille d'une CAN où vous étiez attendu pour être un support efficace, dynamique, important de l'équipe de Côte d'Ivoire.
Justement, c'est des choses qu'on vit difficilement. Donc voilà, c'est même pas une histoire d'un leader qu'on entend dans cette CAN. Non, c'est le fait de ne pas aller défendre les couleurs du pays et de ne pas aller avec mon coéquipier. Faire ce qu'il faut, aller défendre notre titre qui est difficile. Il faut prendre du bon côté. Après, ça n'a pas été facile au niveau de cette compétition, mais quand même, il faut retenir le positif et oublier cette page et penser à l'avenir.
Et l'avenir, justement, comment vous l'entrevoyez avec l'équipe de Côte d'Ivoire, votre carrière propre?
L'avenir, c'est la qualification pour la Coupe du Monde. C'est encore la qualification pour la Coupe d'Afrique qui arrive, mais le plus important, c'est la Coupe du Monde. C'est ça l'avenir. Après ma carrière, je pense que j'ai encore du temps. Mais le plus important, l'avenir, c'est que la Côte d'Ivoire se qualifie pour la Coupe du Monde pour pouvoir oublier cette page de la Coupe d'Afrique.
Gervinho au micro d'Emmanuel Kofi. Et puis Christophe, la suite du feuilleton Gianni Infantino, la tournée en Afrique du président de la FIFA. On l'a appris avec Tete Hadji, notre correspondant au Ghana. Il sera au Ghana demain matin. Une visite éclair de quelques heures, puisqu'en fin de matinée, il doit être normalement à Niamey et dans la journée au Niger, à Niamey. Donc il doit inaugurer le nouveau centre technique de la Fédération Nigérienne de Football.
Et vous pourrez bien sûr suivre ces différents rendez-vous dans les différentes éditions Afrique Sport de RFI. Un petit tour pour deux résultats européens de matchs en cours. Sachez que le Real Madrid a égalisé dans le match contre Villarreal, 2-2. Et pendant ce temps, au Stade Vélodrome, eh bien Stéphane Burgat, ça s'arrange mais un tout petit peu pour Marseille qui réduit le score à l'instant.
Et il sauve l'honneur par Rod Fanny, un coup franc tiré de la droite par Dimitri Payet, repris par Sakai qui manque sa reprise de volée. La balle a atterri dans les pieds de Rod Fanny. Il est 2-0 au niveau du point de pénalty et comme à l'avant-centre, il arrive à se retourner, à frapper instantanément. Et il trompe Kevin Trapp, 4-1. On sauve un petit peu l'honneur en effet à Marseille. Après, eh bien, non, même pas après, on est en train de vivre même côté Marseille, une soirée tout simplement cauchemardesque. 4 buts pour les Parisiens et 4 bourreaux différents, Marquinhos et Cavani en première période, Lucas et puis Draxler tout à l'heure à la reprise, la messe est dite. On sauve un petit peu l'honneur, mais on ne se cache rien ici, il y a des gros chantiers. On s'est fait manger, comme on dit ici, dans la bataille de l'entrejeu. À la récupération, les milieux de terrain n'ont pas vu le jour. La défense marseillaise, on le savait qu'il pouvait se montrer friable. Eh bien, exposer toutes ses lacunes ce soir sur les 4 buts parisiens. À chaque fois, les défenseurs ont été pris de court. Manque de vitesse, manque d'agressivité au marquage sur l'homme à chaque fois. Et les Parisiens, eh bien,
ce score ne reflète pas ce qui s'est passé par exemple face au Barça. On a 4 buts, mais on voit le Paris Saint-Germain qui ne force pas tant que ça son talent. Finalement, c'est en face juste une équipe qui a une classe d'écart. Il y a 17 points, on le rappelle, entre ces deux équipes au classement. Et ça se voit ce soir. Paris est réaliste, Marseille est friable. Et voilà, expose ses lacunes. 4 buts à 1. Et il reste, allez, 20 minutes encore à jouer dans cette partie.
Merci Stéphane. On retrouve bien sûr dans la seconde partie de Mondial Sport pour suivre la fin de ce classique OM-PSG. Sachez que le Real Madrid a repris l'avantage dans son match face à Villarreal, 3 buts à 2 après un but signé Alvaro Morata. Pour l'instant, une petite pause dans Mondial Sport et de l'autre côté du flash, on parlera notamment du rugby Irlande-France, de la tropicale Amissa Bongo et du dossier Jeux Olympiques. A tout à l'heure.
RFI Mondial Sport. Christophe Diremzian, Philippe Zigraf.
Allez, la seconde partie de Mondial Sport, on retourne tout de suite au Stade Vélodrome, puisque comme Hugo Lanoë vient de vous le dire, il a vendu la mèche, Stéphane Burgat au Stade Vélodrome, ça va de mal en pis pour l'OM, le Paris Saint-Germain vient d'en marquer un cinquième.
Ouais, c'est allé très vite, hein, là. La joie était que de courte durée pour les Marseillais, cette réduction du score de Rod Fadi. Dans les deux minutes qui ont suivi, c'est Verratti, encore lui, l'homme détesté à Marseille ce soir, qui se balade le plus simplement du monde dans la surface de réparation. Il a trois Marseillais sur le dos. Il voit qu'il est marqué, il décale très simplement, excentré pour Matuidi qui arrive plein axe, pleine course, et sa frappe qui vient trouver la lucarne de Johan Pelé qui est battu 5 buts à 1. On est vraiment dans l'humiliation, ça fait très très mal. Et on voit là en face, eh bien, les tribunes qui commencent à se vider. Ça va faire du mal dans les têtes, hein, dès ce soir, dès demain matin pour les Marseillais. Il reste un quart d'heure encore à jouer. On voit cette équipe qui a vraiment pris un coup sur la tête et on sent très bien que le score pourrait vraiment s'alourdir encore.
Et pour tout souvenir, j'ai même pas souvenir d'avoir vu une telle déroute de l'OM au Vélodrome, en tout cas ces dernières années. Stéphane, bah, on vous retrouvera malgré tout, évidemment, d'ici la fin de ce match, si le score évolue, que ce soit en faveur du PSG ou de l'OM. Comme promis, replongeons-nous maintenant dans ce déplacement raté et plutôt inquiétant du 15 de France de rugby en Irlande à l'occasion de la 3e journée du tournoi des 6 nations, une défaite 19 à 9 à l'Aviva Stadium de Dublin, la deuxième de cette édition pour des tricolores qui auraient même pu boire le bouillon sans une grosse défense. Ce tournoi, c'est désormais certain, les hommes de Guinness ne le gagneront pas, mais le plus embêtant, c'est cette désagréable impression que les tricolores font du surplace alors qu'ils sont censés être en plein renouveau dans leur jeu. Envoyé spécial à Dublin, Cédric De Oliveira.
Dur à avaler forcément,
très très déçu.
C'est un
petit peu abattu.
On voulait faire un résultat ici et on a quand même beaucoup de déceptions.
Ils abordaient ce match comme une finale, ils ont complètement manqué leur rendez-vous. 19 à 9, le constat est implacable. Les joueurs du 15 de France sont tombés sur plus fort qu'eux à Lansdowne Road de Dublin. Et la remise en question s'impose pour le capitaine Guilhem Guirado.
Forcément, on va se remettre en question par rapport à ce match qui nous a glissé des doigts un petit peu comme le match des Anglais, mais un peu plus tôt dans le match. Donc voilà, c'est un petit peu décevant par rapport au fait qu'on manque de maîtrise collective et qu'il faut se remettre au travail.
Et les Bleus ont du pain sur la planche. Valeureux en défense, ils ont pourtant fait preuve de beaucoup trop d'indiscipline. 13 pénalités au total, c'est suicidaire face à un buteur de la trempe de l'Irlandais Johnny Sexton. Une des mauvaises habitudes du 15 de Guinness, tout comme ses approximations balle en main. Pour le sélectionneur, il faut sans doute changer quelque chose.
Peut-être une réflexion supplémentaire à avoir sur notre façon d'alterner le jeu. C'est-à-dire, quand on tient le ballon et qu'on, au bout d'un moment, de quelques temps de jeu, on se met à subir, mais on change un petit peu son fusil d'épaule et on utilise le jeu au pied. J'ai l'impression qu'on tient le ballon jusqu'à épuisement et jusqu'à ce qu'on le perde finalement. Donc là, il y a quand même dans notre projet peut-être une petite évolution à mener pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs à ce niveau.
Un 15 de France peut-être trop ambitieux alors qu'il n'est qu'en construction. En face, l'Irlande de Conor Murray était pleine de maîtrise et d'une efficacité redoutable. Tout ce qui manque aux Bleus actuellement. Un fossé qu'ils ont du mal à combler depuis l'arrivée de Guinness il y a un peu plus d'un an. Le troisième ligne, Kevin Gourdon.
Je pense pas qu'il y ait de recul ou d'avancée. On a tout laissé sur le terrain et pas pour rien, mais... Enfin bon, à la fin, il n'y a pas le résultat qu'on aurait espéré. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, on bosse le mieux possible et le plus possible pour grignoter l'écart qu'on a par rapport aux autres nations. Alors j'espère que ce sera différent pour le futur.
Après une défaite encourageante en Angleterre et une victoire à l'arraché face à l'Écosse, on pouvait se montrer un peu plus optimiste sur le niveau de ce 15 de France. Cette défaite en Irlande laisse forcément perplexe, mais Guinoves attendra pour faire la révolution.
On n'est pas dans cette réflexion-là, honnêtement. Je pense qu'il y a, comme après tous les matchs, on va d'abord regarder un petit peu ce qui s'est passé, collectivement notamment, pourquoi on a réussi certaines choses, pourquoi on en a loupé d'autres. On va se donner le temps. On n'est pas dans le système où tout d'un coup, on boulègue tout et on change tout. C'est pas, tant que j'y suis, ça ne sera pas comme ça.
Sauf blessure, le sélectionneur devrait sensiblement reconduire le même groupe pour les deux derniers matchs de ce tournoi des Six Nations. Un déplacement en Italie dans deux semaines avant la réception du Pays de Galles au Stade de France. Histoire de terminer sur un bilan positif cette compétition que les Bleus n'ont plus remportée depuis 2010 à présent. Cédric de Oliveira, Dublin, RFI.
Et si les Français peuvent oublier donc le sacre pour cette année, l'Angleterre, elle, reste en lice pour conserver son titre et refaire le grand chelem après sa victoire sur l'Italie 36-15, un succès à l'ampleur un peu trompeuse tant les Italiens ont été très séduisants durant la première période. Au classement du tournoi après trois journées, le 15 de la Rose est en tête avec 13 points devant l'Irlande 10 et l'Écosse 9. La France est cinquième. Le programme complet de la quatrième journée, hormis Italie-France le samedi 11 mars, Angleterre-Écosse le même jour et Pays de Galles Irlande dès le vendredi 10.
RFI.
Retour en Afrique, Philippe, c'est le moment de parler cyclisme avec le traditionnel coup d'envoi de la saison africaine au Gabon, symbolisé par la traditionnelle tropicale Amissa Bongo. Le peloton est fin prêt pour le départ demain matin.
Oui, c'est la 12e édition de cette tropicale, 15 équipes pour un plateau de 90 coureurs, des formations professionnelles, mais aussi de nombreuses sélections africaines. 7 jours de course avant l'arrivée à Libreville dimanche prochain et 2 envoyés spéciaux de RFI sur la course, Philippe Nadel pour les moyens techniques et Frédéric Gassman. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Philippe, bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Franceville.
Merci Franceville. Tout de suite, un regard sur le plateau Frédéric. Plateau très alléchant, hein, comme toujours, de cette tropicale 2017.
Oui, avec cette bonne nouvelle. Tout d'abord, les 15 équipes invitées sont bien toutes là. 10 africaines, 4 européennes, une asiatique, une équipe japonaise. Enfin, si on veut, elle présente la particularité de compter 3 coureurs français dans son effectif. Et surtout l'érythréen Tesfom Okubamariam, sacré, vous le savez, meilleur cycliste africain en 2016. C'est donc un peloton de 90 coureurs environ, hein, qui va se rendre au départ de la première étape. Ce sera demain à 11h, heure locale, à Moanda. Moanda, Franceville, Akiani, ce sera le parcours de cette première étape, 150 km. 10 équipes africaines, le Gabon est là, bien sûr, un petit peu orphelin d'Abraham Olano, vous savez, l'Espagnol, qui était venu ici pour essayer de faire progresser le cyclisme gabonais et qui ne donne plus signe de vie. On se demande bien pourquoi. Le Burkina Faso est là également avec Haruna El Boudo, vainqueur en octobre dernier de son tour national. L'Éthiopie, l'Algérie avec Asdine Lagam, un très bon coureur, le Cameroun, la Côte d'Ivoire avec Issiaka Cissé, le Maroc avec 6 coureurs dont 2 seulement ont déjà disputé la tropicale. Les autres, eh bien, ce sont des jeunes sur lesquels le directeur sportif marocain Mohamed Bilal compte beaucoup. On va l'écouter.
Cette année, on a une équipe de jeunes seulement, Abdelouach et Marouni, qui ont l'habitude de faire le tropical. On voulait faire une équipe de jeunes pour les préparer aux courses internationales de préparation pour 2020. Donc, on va essayer de cumuler le maximum d'expérience.
Quand on regarde le palmarès de la tropicale, on s'aperçoit qu'aucun Marocain, jusqu'à présent, ne l'a remporté. C'est presque un paradoxe, parce que vous avez réussi à vous imposer sur des grandes courses, comme le Tour du Faso, comme d'autres tours en Afrique, le Tour du Cameroun. Et pourtant, la tropicale, pour l'instant, au niveau victoire finale, vous restez bredouille. Comment ça se fait?
On a terminé deuxième deux fois. Deuxième, Hedi Sofiane a terminé deuxième en 2013 à 2 secondes. Et Jellou Adil a terminé lui aussi deuxième. Donc on est 2 fois sur le podium. C'est difficile de gagner, mais les Africains qui ont gagné le Tropical Amissa Bongo, ce sont Rafa Chtioui de l'équipe Skydive, avec une équipe professionnelle, Mera, avec une équipe Direct Energy, je crois. Donc aucun Africain n'a fait mieux que les Marocains avec le maillot de nation.
Voilà, Mohamed Bilal, le directeur sportif des Marocains, prononce pas très bien le nom de Nathanael Berhane, l'Érythréen vainqueur en 2014, mais ça fait rien. Il se veut tout de même optimiste.
Alors, Frédéric Gassman, 15 formations au départ, disions-nous, dont 5 non-africaines qui sont engagées cette année. On va suivre avec intérêt leur confrontation avec les autres équipes.
Oui, 5 équipes non africaines, dont 2 équipes continentales pro. C'est la deuxième division du cyclisme international. Derrière la classification World Tour, il y a Delco Marseille Provence et puis Direct Energy pour la France, l'ancienne équipe Europcar, fidèle parmi les fidèles hein, de la participation à la Tropicale, déjà plusieurs fois vainqueur ici avec Anthony Chartaud et Johan Gen, avec pour chef de file le vétéran Thomas Voeckler. Thomas Voeckler qui dispute en 2017, vous le savez, sa dernière année professionnelle et qui nous a expliqué tout à l'heure ici à Franceville pourquoi il avait choisi de venir disputer ici la Tropicale plutôt que de s'aligner sur Paris-Nice qui débutera, vous le savez, le 5 février, c'est-à-dire le jour même de la dernière étape de cette 12e Tropicale. On va écouter Thomas Voeckler.
Je ne peux pas dire en même temps que je ne suis pas assez fort en ce moment pour jouer un rôle dans un final d'étape sur Paris-Nice, ce que je pense sincèrement. En revanche, j'espère pouvoir bagarrer. C'est vrai que c'est ma dernière année, donc je n'ai pas l'intention de lézarder en queue de peloton et de laisser filer des occasions pour gagner une étape ou plus si elle se présente. Mais après, je suis bien conscient que je suis dans un collectif auquel j'appartiens depuis plus de 15 ans maintenant. Et si ça peut être un de mes collègues de l'équipe Direct Energy qui est à l'avant, j'en serais également très heureux. Oui.
L'autre intérêt de cette course, c'est cette confrontation entre vous, les professionnels venus d'Europe ou d'ailleurs, et les équipes africaines. Bernard Hinault nous disait il y a quelques instants qu'il considérait que chaque année, ce cyclisme africain évolue dans un sens favorable. C'est aussi votre impression ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Quand je suis venu la première fois à la Tropicale, je ne sais plus quand c'était, peut-être en 2008, ça fait déjà quelques années, ça court de manière beaucoup plus structurée. Ça s'est très professionnalisé, si on peut oser le terme, dans la façon de courir. Et je vous garantis que nous, coureurs professionnels, quand on débarque, on ne se dit pas du tout les sélections africaines vont courir n'importe comment et puis nous, on va tirer les marrons du feu. On sait très bien qu'ils ont progressé en termes de tactique autant que d'un point de vue physique, quoi. Donc, vous avez qu'à regarder les moyennes de course des premières étapes. Il y a des débuts de course où ça roule à 50 km/h pendant une heure. Mais comme disait Bernard Hinault, tant qu'on n'est pas venu, qu'on ne s'est pas confronté, on ne peut pas trop avoir d'avis. On croit que c'est facile, mais la partie n'est pas aisée. Ouais.
Thomas Voeckler, chef de file hein, ici des Direct Energy, cornaqué par Jean-René Bernaudeau. Bernaudeau, l'un de ceux qui a sans doute le plus cru et depuis le plus longtemps au développement du cyclisme en Afrique. Aujourd'hui, les faits, Philippe lui donne entièrement raison.
Alors, 7 jours de course, disions-nous, à travers les provinces du Gabon. Frédéric, vous nous détaillez ce parcours 2017 ?
Oui, le grand départ, c'est pour demain matin à Moanda, dans la province du Haut-Ogooué. Nous resterons d'ailleurs 3 jours dans cette région qui frise avec la frontière du Congo au Brazzaville. Ensuite, la traversée de l'Ogooué-Lolo jusqu'à Lambaréné. Lambaréné, c'est ce qu'on appelle un PPO hein, sur une course de vélo, un point de passage obligé. Toutes les tropicales, ou presque, sont passées par Lambaréné. Nous irons ensuite à Kango, qui est une étape particulièrement prisée par les sprinters. Et puis, nous aurons non pas une, mais 2 arrivées à Libreville, samedi et dimanche, avec 2 départs donnés à Akanda samedi et à Oendo dans la banlieue de Libreville. Ce sera dimanche. Il n'y aura pas d'incursion dans le nord hein, cette année du côté de Yem Bitam. Il n'y aura pas non plus d'incursion à Port-Gentil. Il n'y aura pas non plus de contre-la-montre hein, qui avait été fatal à un coureur rwandais l'année dernière qui avait perdu le maillot jaune à la veille de l'arrivée au profit du français Adrien Petit. Et puis, un dernier mot, le délégué UCI, le grand patron de cette course cette année sera portugais. Ce sera monsieur Luis Loureiro.
Merci Frédéric Gassman en direct de Franceville. Merci à Philippe Nadel pour la liaison. La Tropicale à Missabongo, donc toute la semaine, à suivre sur RFI. Et première étape ce lundi, 150 km entre Moanda et Akini. Grosse actualité donc au Gabon pour le cyclisme, mais aussi au Niger, Philippe, où l'on courait le championnat national ce dimanche, une épreuve qui servait de sélection pour les prochains tours de la sous-région, comme on dit. Oui, les tours du Togo en avril et celui du Bénin au mois de mai. Hein, c'est Djibrila Hassan du club ARTP de Niamey qui est devenu champion du Niger au terme d'une course de 140 km. Niamey, course marquée par un très fort vent de poussière. Une cinquantaine de coureurs venus des 8 régions du pays ont disputé un championnat qui n'avait plus été organisé depuis 10 ans. Alors, objectif de cette 7e édition, sélectionner une dizaine de coureurs pour un stage qui permettra de dégager 6 éléments pour les tours du Togo et du Bénin. Le président de la Fédération nigérienne de cyclisme, Saleh Hamidou Tchiana, est au micro d'Ousmane Keïta. Écoutez bien, sur la ligne d'arrivée et sous un vent très violent.
C'est vrai que nous avons déjà dégagé la sélection nationale, mais sur les 6 coureurs, il y aura d'autres coureurs qui vont les rejoindre parce qu'ils vont être internés pendant un mois pour pouvoir tirer parmi cette dizaine de coureurs les 6 qui seront vraiment effectifs sur le tour du Togo.
Pourquoi une présélection nationale ? Est-ce que c'est par rapport à votre
rang au dernier tour du Mali?
Non, ça n'a rien à voir avec notre rang au dernier tour du Mali. Nos cyclistes sont très bien comportés au tour du Mali parce qu'il y en a beaucoup qui ont fini. L'objectif de la fédération aujourd'hui, c'est de relancer le cyclisme.
L'État du Niger va cette fois-ci vous accompagner puisqu'on sait que à chacun de ces rendez-vous, c'est la fédération qui prenait en charge les cyclistes.
Certainement que l'État du Niger sera là au moment opportun pour nous accompagner dans les prochaines éditions. Parce que nous sommes en train de travailler avec l'État du Niger sur l'organisation du Tour du Niger, qui est certainement prévue en 2018. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, le cyclisme est une vitrine pour les pays, de montrer que le Niger est un pays sûr. Nous avons organisé des compétitions qui sont parties jusqu'à l'intérieur du pays. Ça s'est très bien passé. L'État du Niger a montré son engagement ferme de nous accompagner pour organiser ce Tour du Niger. Raison pour laquelle nous, Fédération du Niger, nous participons à tous les tours de la sous-région pour qu'au moment où le tour du Niger viendra, ils seront certainement là à notre rendez-vous.
Le président de la Fédération nigérienne de cyclisme sous le vent, Saleh Hamidou Tchiana, avec Ousmane Keïta. Il évoquait dans son interview le Tour du Mali. Bien sachez que le Niger s'y était classé 8e sur les 9 équipes présentes.
Les candidats à l'organisation des Jeux Olympiques 2024 seraient-ils décidément maudits? Boston, Hambourg, Rome, trois villes intéressées et contraintes d'abandonner en race campagne pour raisons financières ou sous la pression populaire. Et voilà que Budapest, l'outsider dans la dernière ligne droite de la course à l'attribution, a donc fait défection à son tour à moins de 7 mois de la décision finale. Une décision du Premier ministre hongrois Viktor Orban qui va donc résumer la bataille à un duel entre Paris et Los Angeles. Pour parler de ce retrait de la capitale hongroise, on rejoint tout de suite notre correspondante Florence Labruyère. Bonsoir Florence.
Bonsoir Christophe.
Alors d'abord, quelles sont les réactions sur place? Comment les sportifs et les champions olympiques ont-ils pris cette nouvelle?
Eh bien, c'est une énorme déception pour le milieu sportif. C'est un vrai coup de massue. Le soir où la décision est tombée, il y avait un grand débat public sur les Jeux à Budapest. Le président de l'association Budapest 2024 y participait. Il s'appelle Attila Salai Berzeviti. C'est un homme d'affaires, mais aussi un grand sportif. Son arrière-grand-père a fondé le comité olympique hongrois. Et Attila croyait tellement à la candidature de Budapest qu'il avait déjà acheté son billet d'avion pour Lima, pour être là-bas en septembre, quand le CIO annoncerait le nom du gagnant. Alors évidemment, pour lui, le retrait de la candidature de Budapest, c'est une douche froide.
Je participais à un débat public. J'expliquais tout ce que les Jeux allaient apporter à Budapest. On était dans une salle archi-pleine, devant les caméras de télévision, et puis la nouvelle est tombée. C'était vraiment terrible. Quand vous réalisez que c'est fini, c'est vraiment dur.
Alors Florence, le Premier ministre Viktor Orban est pourtant connu pour être un fan de football. Il a failli devenir footballeur professionnel d'ailleurs. C'est lui qui a lancé l'idée de la candidature de Budapest. Pourquoi a-t-il fait machine arrière?
Eh bien, c'est parce que la question des Jeux est devenue politique. Un mouvement de jeunes a rassemblé suffisamment de signatures pour que les habitants de la capitale décident par référendum s'ils veulent que leur ville accueille les Jeux Olympiques de 2024. Le problème est que ce collectif de jeunes, qui est soutenu par des partis d'opposition, a clairement dit qu'ils étaient contre Viktor Orban. Or, il y a des législatives dans un an. C'est donc devenu clair pour tout le monde et pour le Premier ministre que ce référendum sur les Jeux allait en réalité se transformer en élection anticipée pour ou contre Orban. Le Premier ministre a voulu éviter cette confrontation électorale. Il a donc sacrifié la candidature de Budapest aux grandes dames des sportifs qui se sentent abandonnés, voire trahis par les politiques. En tout cas, c'est le sentiment d'Attila Salai Berzeviti.
La débâcle de notre candidature, c'est la responsabilité de toute l'élite politique hongroise. Nos politiciens manquent de maturité. Si Budapest est à nouveau candidate pour 2028, ce que j'espère, il faudra qu'on garde nos distances avec le gouvernement, qu'on s'appuie plus sur le business, parce que les Jeux, c'est une entreprise. Et on ne pourra pas faire l'économie d'un référendum. C'est clair, si on n'a pas un soutien constant de la population, eh bien, on a des problèmes.
Alors, du côté des champions olympiques, c'est aussi la déception. Le champion d'escrime Aaron Szilagyi, doublement médaillé d'or à Londres et à Rio, était pour le référendum. Il pensait que c'était normal de consulter la population et qu'avec une bonne campagne, eh bien, on aurait peut-être convaincu les Budapestois de voter pour les Jeux. Mais la candidature de Budapest a été empoisonnée par la politique et par la corruption qui est importante en Hongrie. Certains Budapestois pensent qu'une bonne partie du budget des Jeux aurait été détournée par les politiciens. C'est sans doute ce qui a motiver les habitants. D'après un sondage récent, 52% des Budapestois étaient contre l'organisation des Jeux Olympiques à Budapest.
Florence Labrouillère, merci, en ligne de Budapest. Avant de poursuivre ce dossier olympique, on va retourner une dernière fois au stade Vélodrome avec vous, Stéphane Burgat. Il n'y avait pas de suspense et c'est une véritable humiliation ce soir pour l'OM au stade Vélodrome, battu 5-1 par le Paris Saint-Germain.
Ouais, les Marseillais qui avaient vraiment hâte qu'elle se termine, cette rencontre qui est doublement historique, hein, record d'affluence au Vélodrome, mais ça c'est vraiment anecdotique puisqu'on va retenir surtout ces 5 buts. Jamais dans l'histoire d'un classico OM-PSG, une équipe ou l'autre n'avait marqué 5 buts. Il y a eu des 4-1, 4-2, 4-0 de part et d'autre, jamais 5. Voilà, donc ça fait très mal, c'est de l'humiliation. 5 buts, 5 buteurs différents, Marquinhos, Cavani, Lucas Draxler et puis Matuidi pour Rod Fanny, le Marseillais qui a sauvé l'honneur, on va dire, entre guillemets. On va se poser beaucoup de questions, il y a plusieurs chantiers vraiment à mettre en route, hein, du côté de Marseille. On l'a vu ce soir, complètement dépassé au milieu de terrain, complètement asphyxié vraiment dans la défense. Le score aurait pu être bien plus lourd puisque Paris a gagné facilement et on n'a vraiment pas eu l'impression que Paris a plus forcé son talent que ça. C'est ce qui est doublement plus inquiétant dans ce qu'on peut retenir de cette rencontre, cette OM-PSG, voilà, qui fait vraiment très très mal au cœur et aux têtes des Marseillais puisque le stade a commencé à se vider, imaginez, 20 minutes avant la fin du match. C'est pour vous dire l'ambiance ce soir à Marseille, score final 5-1 pour le PSG.
Merci beaucoup Stéphane Burgat pour ce but par but d'OM-PSG. Je vous laisse filer en zone mixte pour les réactions qu'on retrouvera demain matin sur RFI dans nos différentes éditions. Au classement, cela donne le Paris Saint-Germain qui est en deuxième position et qui revient à 3 longueurs de Monaco. Le PSG meilleur que Nice à la différence de but. Quatrième toujours Lyon qui a battu Metz, on le rappelle tout à l'heure, 5-0. Marseille de son côté est septième avec 39 buts. On revient à ce dossier olympique. Budapest qui a donc renoncé à la course à l'organisation pour les Jeux Olympiques 2024. Alors si de plus en plus de villes hésitent ou finissent par abandonner l'idée d'organiser des Jeux Olympiques, c'est en raison du coût avant, mais aussi après. L'héritage des JO en termes d'infrastructures est souvent très lourd, surtout si la réflexion sur leur réutilisation ou le recyclage des équipements n'a pas été suffisamment menée en amont. Le pire exemple de ces dernières années, c'est Sochi, devenue une véritable ville fantôme après les Jeux Olympiques d'hiver 2014, avec malgré tout un budget pharaonique et des sites transformés en champ de ruines. Malheureusement, la situation n'est pas meilleure, loin de là, à Rio, où bon nombre d'installations sont déjà dans un état de délabrement avancé, comme est allé le constater notre correspondant François Cardonard.
Dans la banlieue sud de la ville, le parc olympique est presque désert. Seule la promenade entre les immenses bâtiments des enceintes sportives est ouverte au public. Isabella est venue s'y promener avec son fils, Leandro, 10 ans. Ils pensaient retrouver l'atmosphère des Jeux Olympiques auxquels ils avaient assisté. Ils sont amèrement déçus. Le parc olympique est totalement délabré.
Quand je suis venue durant les JO, tout était si joli, merveilleux, parfait. Mais on voit que rien n'a été fait. C'est abandonné, c'est triste.
C'est un chouette endroit pour que les familles puissent se promener, mais il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de quoi boire, même pas un robinet, et pas d'endroit pour aller aux toilettes. On est allé jusqu'au bout et on est revenu, mais il n'y a rien d'autre à faire.
Lorsque l'on se faufile derrière les barrières, on peut apercevoir la piscine d'échauffement des nageurs durant les JO. Elle est remplie d'eau de pluie, verte, nauséabonde et infestée de moustiques. Raquel, 38 ans, venue se balader avec sa famille, n'en revient pas. 10 milliards d'euros ont été dépensés dans les infrastructures olympiques, de l'argent public dépensé en vain, selon Raquel, alors que les autorités avaient promis que les populations défavorisées de Rio pourraient en profiter.
Je me rappelle de mon émotion durant les JO. Incroyable. Et maintenant, regardez, c'est à l'abandon. Ça me rend tellement triste. Imaginez combien d'enfants des favelas pourraient venir ici pour s'amuser et payer une toute petite somme pour avoir un cours de natation ou d'un autre sport. Mais maintenant, c'est impossible.
Non loin, les immenses tours du village olympique sont inhabitées. L'ancien maire de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, avait promis que les infrastructures dans cette zone seraient reconverties en un complexe scolaire et immobilier, mais aucune entreprise n'a pour l'instant manifesté son intérêt. Un spectacle désolant pour Fernando, qui habite dans l'une des résidences privées voisines du site olympique.
Ce lieu est vraiment beau, mais il doit être entretenu, sinon voilà le résultat. D'autant que ça a coûté très très cher de construire tout cela avec nos impôts. Alors il faudrait le rénover, le mettre en valeur, surtout pour que cela devienne un héritage sportif pour les prochaines générations.
Symbole de ces infrastructures sportives laissées à l'abandon, le Maracana, le mythique stade de football, il est fermé depuis la fin des Jeux Olympiques, malgré une rénovation qui a coûté plus de 350 millions d'euros avant la Coupe du Monde de football en 2014. À l'extérieur, des mauvaises herbes ont envahi les parkings. À l'intérieur, le terrain est hors d'usage. La pelouse est complètement sèche. Depuis des mois, il n'y a plus d'électricité ni d'eau courante. Sur les murs, la peinture se craquelle. C'est le résultat d'un conflit entre l'État de Rio de Janeiro, propriétaire du stade, et l'entreprise qui en assure la gestion, Odebrecht, le géant du BTP brésilien, au cœur d'un énorme scandale de corruption. Gabriel Compos, son attaché de presse, a accepté de nous faire visiter le site. Elle reproche au comité olympique de leur avoir rendu le Maracana en très mauvais état.
Ce n'était pas ainsi avant. La pelouse était belle, il y avait des chaises partout dans les tribunes. Et maintenant, là-haut, regardez, il n'y en a aucune. C'est impressionnant, non? Ici, par exemple, il manque 7000 sièges. Ils en ont entassé d'autres là-bas. On a surnommé cet endroit la décharge quand on est arrivé et qu'on a vu dans quel état c'était.
Aujourd'hui, Odebrecht estime que le Maracana n'est plus suffisamment rentable et veut le rendre à l'état de Rio, qu'il accuse de ne pas avoir respecté ses engagements. Le conflit s'enlise, l'état de Rio au bord de la faillite est incapable de financer la rénovation. L'héritage des Jeux Olympiques est devenu un lointain souvenir. François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Voilà, triste état des lieux que les deux derniers candidats pour 2024, Paris et Los Angeles, tâcheront de ne pas produire. Décision finale sur cette candidature, on le rappelle, le 13 septembre prochain à Lima. On retourne quelques instants à Marseille, non pas pour du football, mais pour du tennis. C'est Joe Wilfried Tsonga qui a remporté ce dimanche le 14e tournoi de sa carrière, l'Open 13, aux dépens de son compatriote Lucas Pouille, en deux manches 6-4-6-4. Un Tsonga décidément en pleine forme, puisque c'est le deuxième week-end d'affilée où il repart avec un trophée. Il avait été sacré dimanche dernier à Rotterdam. Et cette victoire signifie qu'officiellement, demain, il fera son retour dans le top 10 mondial. Il sera classé 7e. Tout dernier mot de tennis pour vous signaler que le match de barrage de la Fed Cup entre la France et l'Espagne le 22 et 23 avril prochain aura lieu à Roanne dans le département de la Loire. Les Françaises éliminées dès le premier tour par la Suisse tâcheront d'éviter la redescente en division inférieure où elles évoluaient entre 2012 et 2014. Voilà, il est grand temps de boucler ce Mondial Sport réalisé ce dimanche avec Quentin Bresson, avec le précieux concours de Jean-Philippe Thury. N'oubliez jamais que l'actualité sportive est aussi à retrouver en permanence sur RFI.fr et sur africfoot.rfi.fr. Demain, le retour de Radio Foot International à 15h10 TU sur le réseau Afrique, 16h10 pour Paris et le reste du monde, 16h10 TU. Une semaine complète avec Olivier Pron aux commandes, vous avez de la chance. Et dans un instant, 24h en France, ce sera avec Loïc Bussière. Très bonne soirée à tous et à toutes.